بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة متفق عليه. شيخ الإسلام, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne cette chance, cet honneur de pouvoir écouter un hadith rapporté par notre prophète alayhi salat wa salam, rapporté par les sahaba de notre prophète alayhi salat wa salam, les sahaba qui rapportent un récit, une anecdote, un instant de la vie du prophète alayhi salat wa salam lorsqu'il a expliqué aux sahaba la vision qu'il a eue de la part d'Allah Azza wa Jal, Allah qui lui a permis de voir, d'entrevoir la situation lors de la mahshar, lors de la résurrection. On entend souvent les versets qui parlent de l'au-delà. Et on a maintes et maintes fois rappelé l'importance de iman bil yawm al akhir, de la foi en l'au-delà. En plus d'avoir cette chance qu'Allah nous a informé de chaque étape de l'au-delà, comment est-ce que ces étapes vont se dérouler? Là, ce hadith se distingue par une description d'une telle précision, c'est comme si c'était une scène. C'est une scène qui nous est racontée par le prophète alayhi salat wa salam, et c'est une scène qui sera visible par chaque personne au jour de Qiyam. Cette scène est la suivante. On a Nabi alayhi salat wa salam qui aperçoit Ardul Mahshar, la terre de la résurrection, avec les gens. Mais combien de personnes? 500, 1000, 10 000, 1 milliard, Allah seul le sait. Combien de milliers, de millions, de milliards depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme? Depuis la race des ins, des djinns et même des hayawan, même les animaux seront ressuscités. C'est-à-dire toute la création d'Allah Azza wa Jal sera présente et cette création d'Allah sera entourée par les malaïka, les anges qui vont faire des cercles. Chaque ange de chaque ciel fera un cercle autour de la terre de la résurrection avec les ins et les djinns qui sont au milieu. Jusqu'à, on arrive les anges du 7e ciel, c'est-à-dire mashhadun azim, une vision qui dépasse l'entendement. N'essayez pas d'imaginer, on ne peut pas. Cela n'est pas dans les facultés de l'être humain que de concevoir cette vision. Mais malgré le fait que cela soit totalement inaccessible, Juste pour vous donner un aperçu, selon, on avait dit ça récemment, il me semble, les ulama de la Sira, le prophète alayhi salat wa salam avait subi l'opération de la poitrine avant le Mi'raj, afin qu'il puisse voir dans l'au-delà ce que des yeux d'êtres humains ne peuvent pas supporter. La vision des anges, la vision des cieux, la vision des portes des cieux, la vision du paradis, de l'enfer, le Sidratul Muntaha, il a réalisé avec le Baytul Ma'mour. Ce sont des choses qui sont parfois effrayantes, comme l'enfer, mais parfois magnifiques, que l'homme aimerait contempler, mais l'être humain, avec ses cinq sens, ne peut pas affronter ce monde, qui est un monde invisible, qui est le monde de Al-Ghaib, de l'invisible, qui est un monde parallèle, avec lequel on ne peut pas avoir une relation directe. Et donc, selon certains ulama de la Sira, l'opération de la poitrine avait entre autres pour objectif de donner au prophète alayhi salatu wassalam la possibilité de supporter ce genre de mashhad de vision. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a décrit, et ça c'est une chance que nous avons, que les autres communautés n'ont pas eu. Et parmi donc ces descriptions de l'au-delà, nous avons une autre description qui maintenant décrit la résurrection de façon précise. Le prophète alayhi salatu wassalam scrute la terre du mahjar et il est à la recherche de qui? À qui est-ce qu'il recherche? La recherche de sa umma. Et si on saute un petit peu ce hadith, on va beaucoup plus loin, une autre étape. Les sahaba avaient demandé une fois, « Ya Rasulallah, comment est-ce qu'en ce jour tu vas nous reconnaître ?»« Mim baynil umami » Parmi toutes ces communautés qui sont ressuscitées, depuis le premier jusqu'au dernier homme, le prophète alayhi salat wa salam a dit que vous êtes la seule communauté qui se distinguera par la lumière de des ablutions. Gharram muhajjalina min athar al-wudu, al-wudu, al-tahara, la purification, les ablutions qu'on fait régulièrement, mashallah. Et des fois qu'on fait des ablutions, on pense même plus ce qu'on est en train de faire, parce que c'est devenu une habitude. Mais ça, c'est ni'ma min Allah. Un musulman quitte sa maison, il vient à la masjid, il fait ses ablutions, voilà, il fait ses ablutions chez lui. Et se présente devant Allah, subhanallah, quelle ni'ma de la part d'Allah. On doit faire qadar, comme on dit, prendre considération de chacune de ces étapes. On doit prendre considération des ni'ma qu'Allah nous accorde. Oui, la foi, la santé, la famille, les enfants, la mobilité, marcher, avoir ses cinq sens, ne pas être dépendant. Ça, on a l'habitude d'écouter, d'entendre les rappels sur ces bienfaits. Mais également bienfaits sur les tawfiq les ibad. Pas tout le monde a la possibilité de se prosterner devant Allah Azza wa Jal. On a vu dans la sourate Al-Qalam il y a quelques jours que le jour de la résurrection, lorsque il y aura une lumière qui va jaillir de la terre de la résurrection, selon certains savants, c'est une vision effrayante, c'est la vision de la terre de la résurrection. Donc il y a deux avis, mais ce qu'on retient, c'est qu'à cet instant, tous les croyants vont se jeter en prosternation devant Allah Azza wa Jal. Mais lorsque certaines personnes pourront se prosterner devant Allah, il y aura des personnes qui vont essayer de faire le sijda, mais ils auront le dos bloqué. Ils ne pourront pas faire le sijda. Et en commentaire, Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que c'était les personnes qui, dans ce dunya, on parle de musulmans, sont des personnes qui faisaient les actes d'adoration avec ostentation. Ne faisait pas avec sincérité pour Allah Azza wa Jal. Donc ça, ça nous donne une idée, subhanallah, que se prosterner devant Allah, faire le ibadah, ça c'est un ni'ma. Ça c'est un cadeau de la part d'Allah. Et si on a été assidu de nos bonnes œuvres de ce dunya, on a espoir que le jour de Qiyamah, Allah nous choisit pour être parmi ceux qui se prosternent devant lui dès les premiers instants de la résurrection. Allahumma ja'alna minhum. Et donc, pour revenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc, c'est la lumière issu des ablutions. Ce sera ça le signe de ma umma. Donc quand nous on vient à la masjid ou qu'on fait les ablutions à la maison pour venir ensuite accomplir la salah, ce wudu, ça nous permet de faire la salah. Bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle le fiqh. Ça c'est la jurisprudence avec comment il faut faire, comment on lave le visage depuis la naissance des cheveux. Ça c'est le fiqh. C'est ce que tout le monde a appris. Mais allons au-delà du fiqh, au-delà de l'aspect technique, jurisprudence. On doit avoir le bienfait qu'Allah nous accorde, le ni'ma qu'il nous accorde, qu'on peut faire justement ces ablutions. C'est-à-dire que ces ablutions resteront, garderont des traces. Et celui qui a été régulier dans ces ablutions, c'est quelqu'un qui bien sûr aura été régulier dans ces salats, ça c'est logique. Celui qui est régulier dans ses ablutions, c'est quelqu'un qui est régulier dans ses salat. Donc cette personne-là, le jour de Qiyama, aura les membres et le visage particulièrement qui sera brillant, avec un nour. Et le prophète alayhi salat wa salam reconnaîtra sa umma par le visage qui est brillant et illuminé. Qu'Allah nous accorde ce ni'ma. Qu'Allah nous accorde cette possibilité d'avoir le visage rempli de lumière afin que le prophète alayhi salat wa salam nous reconnaisse. Et si le prophète nous a reconnus, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ensuite? Hein? Être, oui, avant d'être avec lui dans le Jannah. On reste de la résurrection. Si un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a reconnus le jour des comptes, on peut espérer qu'il nous prend et qu'il nous amène boire min hawd al-kawthar. Allahumma ja'alna minhum. Que le prophète nous reconnaît et qu'il nous invite pour boire du fleuve du Kawthar. Et celui qui boit du fleuve du Kawthar, la yadhma'u ba'dahu abada. Jamais plus la personne n'aura soif. Comprenez, il n'y aura plus de souffrance. Quelle est la plus grande souffrance de la terre de la résurrection? La soif. Le soleil qui entraîne la soif. Les gens seront déshydratés, plus rien. Il n'y a rien à boire, à manger là-haut. Alors que celui qui a bu Hawd al-Kawthar, cette personne-là est tranquille jusqu'aux dernières étapes. Et pensez-vous, quelqu'un qui a bu du Kawthar, c'est quelqu'un qui a sa place dans le Jannah. Donc ça, ce sont des étapes qui s'enchaînent, qu'Allah nous accorde cette possibilité. Et si le Prophète nous a reconnus le jour de Qiyamah, qu'est-ce qu'on peut espérer également? Qu'il intercède pour qu'Allah nous fasse entrer dans le Jannah. Ikhwan et fillah, ça doit être là nos objectifs les plus essentiels. Après tout ce qu'il y a autour, c'est innamad dunya fana. Ça n'a aucune importance. Les querelles, les problèmes, les divergences, parfois l'animosité qu'il y a entre des personnes, les querelles, l'argent, les biens, l'héritage, les paroles qui ont été mal comprises, les frustrations, et ainsi de suite. On peut évacuer tout ça du dos de la main. Et se dire que le plus important, c'est que là-haut, Allah m'accepte. Là-haut, mon prophète me reconnaît, m'amène boire du Kawthar et me fait entrer dans le paradis. Ça, c'est bas yakfina. Ça, c'est le souhait du musulman. On va voir comment les sahaba, ils entendent une description et ils n'en peuvent plus. Ils savent plus quoi faire tellement ils ont commencé à discuter à voix haute que le prophète est obligé de ressortir. Il vient, il va voir les sahaba. De quoi vous êtes en train de parler? Vous êtes encore là? En train de discuter, on va voir ça. Donc le prophète sallam explique, il dit que j'ai eu cette vision des ummas, des ummas de toutes les communautés. Faraitu an-nabi wa ma'ahu ar-rahiit. J'ai vu que le jour de Qiyamah, le jour de la Mahshar, il y aura des prophètes qui auront avec eux moins de 10 personnes de la umma. Toute leur vie, ils ont invité vers Allah. Et il y a moins de 10 personnes qui ont lu la ilaha illallah. Mais le sa'i a été accepté par Allah. Leur mission a été accomplie. وَالنَّبِي وَمَعْهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. Certains prophètes, dans le Coran, il y a le nom de combien de prophètes? 25. Et Allah a envoyé environ combien de prophètes? Environ 124 000. C'est-à-dire le reste, tous les autres, on n'a pas les noms. Allah Rabbul Izzah nous a révélé le nom de 25. Ça montre également que notre ilm, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Très peu de connaissances Allah nous a accordées. On connaît 25 prophètes, et il y a encore, subhanallah, 124 000 moins 25, calcul, ça fait 123 000, je ne sais pas combien, 975, on n'a aucune idée de leur nom, ni rien du tout. Donc on verra certains prophètes qui ont avec eux une personne ou d'autres deux personnes. Ça c'est leur vie de da'wah, ça aboutit sur une hidayah. Mais une personne, subhanallah, ni'ma minallah. Quand le prophète dit qu'Allah guide une personne par ton intermédiaire, c'est mieux qu'un chameau à poil roux. C'est la métaphore qui touche le plus le cœur des Arabes. Chameau à poil roux, excusez-moi, l'exemple décalé à notre époque, c'est avoir une Ferrari. Tu dis à quelqu'un une Ferrari, il dit qu'il meurt pour avoir ça, un morceau de ferraille. Il dit que quelqu'un te donne la hidayah à quelqu'un, c'est tellement important, c'est parce que, tu as fait le travail des Anbiya. C'est que tu as ramené quelqu'un vers Allah. Comment Allah est satisfait de toi? C'est que la personne qui a eu la hidayah, chaque fois qu'elle va faire la salah, chaque fois qu'elle va lire le Coran, chaque fois qu'elle va dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah te donne autant de récompenses. Ça c'est ranima. Ça c'est une richesse. Qu'Allah guide par ton intermédiaire une personne. Et pour qu'Allah guide par ton intermédiaire une personne, il n'y a pas besoin d'être un grand alim. Il n'y a pas besoin d'être un fundi. Il n'y a pas besoin d'être un grand cheikh. Ça peut être entre amis, entre jeunes. Vous voyez un groupe de jeunes qui restent là-haut au feu rouge, qui ne viennent pas faire la salat. Et toi, tu descends accomplir la prière. Tu te dis que je ne fais pas partie de ce groupe. Ils ne vont peut-être pas m'accepter si je parle. Mais si tu mets beaucoup de sincérité de ton côté, tu dis, une parole. Peut-être Allah va ouvrir leur cœur. Et que vous dites une parole à ces jeunes, mes chers frères, là bien le succès. On va faire la salat, c'est la première chose à propos de laquelle on sera questionné. Venez vers la miséricorde d'Allah, Allah nous ouvrira les portes de ce dunya du akhira. Et si parmi les 10, il y a une personne qui a compris et qui vient faire la salat, subhanallah, et que cette personne décide d'être régulière de sa salat tout le temps jusqu'à la mort, subhanallah, ça aussi c'est da'wah, ça aussi c'est hidayah. Donc il n'y a pas besoin d'un grand discours, une grande conférence, ça peut être une parole et Allah change la vie d'une personne. Et le prophète sallam continue. Wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. C'est un prophète se présente devant Allah Azza wa Jal et personne n'a accepté l'islam. Personne n'a accepté le dîn d'Allah. C'est un prophète se présente devant Allah et durant toute leur vie, il n'y a pas eu une personne qui a accepté le message parce qu'ils ont prêché. Mais ces personnes avaient le cœur scellé qu'Allah nous protège. Et malgré ça, leur mission est acceptée par Allah. Parce qu'ils l'ont fait avec sincérité. Et les ulama, on fait une petite parenthèse, ils donnent cette fa'ida, ils donnent cette leçon à retenir que al-muhim, le plus important, ce n'est pas al-natija, c'est al-ikhlas wal-mujahada. C'est la sincérité et l'effort. C'est ce qu'Allah attend de nous. Allah n'attend pas de nous le résultat. Ce n'est pas que tu as fait plein de choses et là Allah t'ouvre les portes. Non. C'est ce prophète qui se présente avec un homme. Vous pensez qu'Allah le refuse ou Allah le rejette? Na'oudhou billah. Allah Rabbul Izzah sait que ce Nabi, ce prophète, quelles étaient les conditions? Dans quelles conditions il a prêché? Avec quel genre de personnes? Quelles difficultés? Mais ces prophètes, ils ont tous été istifa min Allah, choisis par Allah. Ils avaient donc la sincérité et ils ont fait les efforts. Tous les prophètes ont fait les efforts jusqu'à leur mort. Et c'est ce qui est recherché par Allah. Par analogie qu'on doit réaliser nous aussi, que même si on se rend compte qu'on n'arrive pas à être vraiment au top, on n'arrive pas à être très productif spirituellement, il y a des hauts et des bas, et des fois on s'accroche, des fois on décroche, on revient, on perd un peu de terrain, et puis on demande taouba, on est revenu vers des péchés, on a demandé pardon, et on revient, et ainsi de suite. On se rend compte que c'est souvent comme ça, mais peut-être que pour Allah, Rabbul Izzah, c'est suffisant. Parce que le mu'min n'a jamais perdu, n'a jamais oublié le regard d'Allah sur lui. Quand il revenait, il le faisait pour Allah. Quand il s'éloignait, c'était un peu de waswasa, il se laissait entraîner. Mais après, il y avait les regrets, les remords, il demandait pardon, il revenait vers Allah, Rabbul Izzah, aussitôt qu'il pouvait. Et autant on revient vers Allah, autant Allah peut nous accepter. Sahaba avait demandé au prophète d'Allah, qu'en est-il de cette personne qui qui accomplit un péché, qui demande pardon? Alors, pour ça, me dit que cette personne, s'il est sincère, bien sûr, on parle de sincérité, bien Allah l'accepte. Il dit au prophète d'Allah, mais si ensuite cette personne recommence le même péché, il ne voulait pas, mais il est retombé dedans. Puis il redemande pardon sincèrement. Il dit Allah l'acceptera encore. Ya Rasulallah, quelque temps après, il retombe vers les mêmes erreurs. Il redemande pardon. Il dit Allah l'acceptera encore et encore et encore. Ça, c'est la générosité d'Allah. Ça, c'est le karam, la gentillesse, la clémence d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous permette de profiter de sa clémence, de sa rahma al-muhim. Plus important, ikhwani fillah, c'est de rester sincère pour Allah et de continuer à faire des efforts. Ne jamais baisser les bras. Et ne fais jamais passer le dunya avant Allah. Ne fais jamais passer le plaisir avant Allah. Ne fais jamais passer tes amis, ta famille, ta femme, tes passions devant Allah et son prophète. Jacques le prophète dit que celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui m'aime plus que sa femme, ses enfants et sa propre personne. Il dit, fais passer Nabiullah, fais passer la sunna, fais passer l'obéissance avant même ce que ton nafs te demande. Puis même si tu n'as pas fait des choses extraordinaires, s'il y a des fois où tu entends le récit des compagnons ou récit des grands savants, des pieux prédécesseurs, et tu te rends compte que tu ne fais même pas 1%, ne ressens pas cela comme une défaite. Le plus important, c'est que le cœur reste vivant. Ça continue à bouger dedans. N'oublie jamais Allah. Il ne faut pas que quand on est avec les amis ou avec des collègues, on oublie complètement Allah Azza wa Jal. Ça, c'est mauvais. Le mu'min, c'est celui qui garde toujours la pensée d'Allah dans son cœur. Et celui qui essaie, qui s'efforce de faire le dhikrullah, de penser à Allah Azza wa Jal, de penser à ce qu'Allah attend de moi, ce qu'Allah ne veut pas que j'accomplisse, Inch'Allah, il aura cette force face au péché de dire non. De refuser de sombrer dans le piège de Shaitan, afin qu'il arrive à sortir de cette deuxième catégorie de personnes qui, minhum muqtasid, qui parfois fait de bonnes choses, parfois fait des péchés, pour monter de grade et arriver vers sabiqun bil khayrati bi'idnillah. Sabiqun fil khayrati bi'idnillah, les plus hauts degrés. Les plus hauts degrés, c'est ceux qui arrivent à un moment où ils ne désobéissent plus à Allah Azza wa Jal. Ça doit être notre objectif. Prophète continue. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. Le prophète cherche toujours sa umma. Et là, il voit quantité de personnes. Et il espère que c'est sa communauté. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي أُنظُرْ. Et là, on lui dit, regarde encore, regarde tel endroit. Il voit une grande quantité de personnes. Et on lui annonce que هَذَا مُوسَى وَقَوْمُ. Ça, c'est Moussa alayhi salam et son peuple. Et Khouani Fillah, imaginez ces mashhads, aller au-delà du texte. Imaginez des scènes que nous allons voir, parce qu'on va voir de loin cet homme qui cherche. Et le jour de Qiyama, est-ce qu'on a le droit de crier, de dire, moi je suis là, je suis de ta commune. Le jour de Qiyama, il n'y a pas une personne qui peut même ouvrir à la bouche, qui peut parler. Dans la surat Ash-Shu'ara à la fin, non pas surat Ash-Shu'ara, oui, un peu avant la fin, là, yasma'u illa hamza. Le verset, ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فإذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Il n'y a plus personne qui parle, il n'y a plus personne qui ose prendre la parole. Et فلا تسمع إلا همسا. Selon Ibn Kathir, la seule chose qu'on va entendre, c'est le bruit des pas. Les gens qui avancent, qui vont se rendre vers la terre du jugement. Et donc, imaginez voir Moussa alayhi salam qui retrouve son qom autant de fois qu'on a entendu parler de Moussa alayhi salam. Combien de versets de le Coran? Le prophète qui est le plus cité dans le Coran. Et là, on le voit qui va auprès de sa umma. Et chaque personne dans sa umma a de l'espoir, mais en même temps de la crainte. Mais ils ne savent pas encore, peut-être, certainement, ils ne savent pas que c'est notre communauté qui va être jugée en premier. Et le fait qu'Allah nous juge en premier, c'est une clémence de sa part, pour qu'il n'ait pas à attendre tout ce temps. Et là, le prophète voit une quantité de personnes. C'était le hadith tout à l'heure, je vais sauter une ligne. Et là, on lui demande, regarde tel endroit encore. Il voit encore beaucoup, beaucoup de personnes. Et là, on dira au prophète, alayhi salatu wassalam, هذه أمتك. Voilà donc ta umma. Et ce sera les personnes les plus nombreuses le jour du Qiyama. Et là, on lui annonce une nouvelle exceptionnelle. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ. On lui annonce que, et parmi ta umma, il y aura 70 000 personnes qui vont entrer au Jannah sans rendre compte. Bila hisab. On a beaucoup de fois entendu le terme bila hisab, sans hisab. C'est-à-dire que Allah ne te pose même pas une question. Tu es ressuscité, tu reçois ton livret de compte, il y a les étapes et tu vas au Jannah. Subhanallah. Je vous donne une image, mais c'est décalé. Quand quelqu'un arrive à l'aéroport, il n'y a pas de contrôle, on ne vérifie pas les bagages, il rentre direct dans l'avion. Ça n'existe pas, à moins que vous êtes, mashallah, un ministre ou je ne sais pas quoi. Je veux dire, Qiyama, c'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'angoisse des comptes ou des questions ou la pesée, il n'y a rien de tout ça. La personne va directement au paradis. Dans un hadith, il est décrit que Awwal Zumra, le premier groupe, et quand on dit groupe, ce n'est pas 10-20, c'est 70 000. Yadkhuluna al-Jannah, ils vont entrer dans le paradis avec le visage qui sera aussi brillant, illuminé que la pleine lune. Et mutamasikin akhidhu ba'dhum ba'dha. Et cette muhabba, cette union qu'il y aura entre ces mu'min, c'est que ces 70 000 personnes, ils vont être sur une ligne. C'est pas un groupe, hein. C'est pas un cercle ou un rond, un groupe des gens qui sont devant et derrière. Non, ils sont sur une même ligne. Il n'y a pas un qui rentre le Jannah avant l'autre. Ils s'attrapent par les bras comme ça, comme des amis, mais ce sont là les meilleurs des amis. Ce sont là les meilleurs des compagnons, oui ou non? Ce sont des personnes ce sont les meilleurs qui ont réussi le test de ce dunya et qui ont été agréés, acceptés par Allah. Et ils vont entrer, mutamassikin, ils vont se tenir fermement, ils entrent en même temps dans le Jannah, dans le paradis. Après les hadiths qui décrivent l'odeur, le parfum qui arrive aux narines des personnes qui entrent dans le Jannah. Première chose, premier sens qui est sollicité, c'est le parfum du paradis. Ils le sentent devant la porte et puis ils entendent les bruits des ruisseaux. Après il y a Allahu Akbar, Al-Manva, ce qu'ils vont voir, qu'Allah nous accorde cette chance. Allahumma amin. Et donc, وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ. Ensuite, le prophète Sassam s'était retiré, il est entré chez lui. Et les gens ont commencé à discuter, à débattre. Et ils discutaient de quoi ? Fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wa la adhab. Le sujet de leur discussion, c'est qui aura cette chance d'entrer dans le paradis sans rendre compte et sans subir de châtiment. Et en commentaire, les muhadithin disent, voilà donc la préoccupation principale des sahab. Comment être agréé par Allah et comment accéder au paradis? Comment être parmi les meilleurs? Il dit que si nous, on souhaite, parfois on dit qu'on aimerait avoir un iman comme les sahab, des a'mal comme les sahab. Bien sûr, ce sont nos modèles, les étoiles, comme de certaines sources il est rapporté. Et les savants disent, si vous voulez voir la différence qu'il y a entre vous, entre nous les sahabas, on a juste à analyser nos priorités et leurs priorités. Les choses qui nous tiennent à cœur et les choses qui les tenaient à cœur à eux. Les choses qui nous effraient, les choses qui les effrayaient eux. Qu'est-ce qui effrayait les sahabas? C'est qu'Allah soit mécontent d'eux. Qu'est-ce qui effraie les sahabas? C'est de rater une salah. C'était pire pour eux que de perdre leurs proches et toute leur famille, rater une salah. Alors que nous, quand on rate une salah, on remplace, c'est comme si rien n'était, on trace notre chemin en avance. Quel était le souhait des sahabas? C'est agréé par Allah, accéder au Jannah. Et quels sont nos objectifs, nous, dans ce dunya? Sahaba, ils pensaient à ça depuis ici, de ce dunya. Ils n'avaient aucun objectif dans ce monde. Ils ne rêvaient pas de bien, de richesse, ils rêvaient de rien du tout. Seule chose, c'est réussir ces ayyam, ces jours, pour être agréé, pour être accepté par Allah Azza wa Jal. Si on veut monter de grade spirituellement, on doit se fixer ses objectifs. Et donc, le prophète Sassam explique. Oui, donc les sahaba étaient en train de discuter. Wadakaru ashia, ils ont cité plusieurs éventualités. Certains ont même dit, peut-être que ce sont ceux qui sont nés fil islam, qui sont nés directement musulmans. Falam yushriku billahi shay'a, et qui n'ont jamais fait le shirk. Alors commentez, voyez comment, quelle était l'humilité des sahaba. Ils pensaient peut-être que ceux qui sont nés dans l'islam, c'est-à-dire comme vous et moi, et qui ne se sont jamais prosternés devant les idoles, qui n'ont jamais adoré d'autre qu'Allah, certainement ces gens-là, ils ont un grade supérieur au nôtre, aux sahaba, subhanallah. Parce que nous, on a connu des ayam jahiliya et nous revenus. Voyez comment, quelle était l'innocence, quelle était l'humilité, quel était le tawadu. Ce n'est pas des gens qui se sentaient supérieurs, on est les meilleurs des générations, aucunement. Ils sont même allés jusqu'à penser donc que des gens qui sont nés dans l'islam, parce qu'ils n'ont jamais fait le shirk. Alors que peut-être nous, on a eu un passé. Allah nous a pardonné, peut-être que c'est ça qui nous pose problème. Subhanallah. Wadakaru ashia. Ils ont cité plein d'éventualités. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam est sorti. Il leur a posé la question. Et ils ont expliqué de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam donne la réponse. Humul ladhina la yarquun. Ceux qui n'ont pas recours au ruqya. Et ça, on aura l'occasion d'expliquer ce qui est nécessaire pour nous de comprendre. Et également, ceux qui n'ont pas recours au traitement à base de la chaleur, du feu. Comment s'appelle ça? La cautérisation. Barakallahu fik. Wala yatatayyarun, ceux qui ne sont jamais superstitieux. Pas de superstition. Et la conclusion, wa'ala rabbihim yatawakkalun, et qui ont confiance totale en Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le Mu'allif a cité ce hadith dans ce chapitre, Babu Tawakkul, par rapport à cette phrase qui est le shahid, qui est le maqta, qui est la phrase qui nous intéresse. Ce sont des personnes qui vivent dans ce dunya avec une confiance totale en Allah, qui n'ont peur de rien, qui n'ont peur que d'Allah, qui ont uniquement la crainte d'Allah, et qui ont espoir uniquement en Allah Azza wa Jal, et qui ont confiance uniquement en Allah Azza wa Jal. Et là, il y a un sahaba qui s'appelle Ukasha. Ukasha, radiallahu anhu, ibn Muhsin, était présent, il s'est levé. Il a dit, au prophète d'Allah, ud'u Allah an yaj'alani minhum, au prophète d'Allah. C'est-à-dire, quand il a entendu ça, il était émerveillé. Pour lui, ça c'est al-fath. Ça, c'est la réussite. Au prophète d'Allah, fais doit que je fasse partie de ces gens. Et le prophète me répond, anta minhum, subhanallah. Tu fais partie de ces personnes. Et en commentaire, muhadithin disent que, à partir de cette phrase, nous avons la conviction que Ukasha fait partie des personnes qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis de ce dunya. En plus des ashara, en plus des 10 mubashara bil jannah. ثم قام رجل آخر. Une autre personne s'est levée. Il a dit au prophète d'Allah, il a demandé la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répondu d'une façon un petit peu détournée. Il a dit que Ukasha t'a précédé dans la demande. Ukasha était plus rapide que toi. On pourrait dire, on peut traduire de différentes façons. Ukasha t'a précédé. Alors on va, là c'était le nas, le matin. On va essayer de voir un petit peu quelques points. Certains points on a déjà commenté entre les prophètes qui ont quelques personnes. Ça on a expliqué. Il y a l'exemple de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, pour Nuh dans la sourate Hud, il est cité wa ma amana ma'ahu illa qalil. Très peu de personnes ont accepté le message de Nuh alayhi salam. Alors que, paradoxalement, c'est un des prophètes qui a prêché le plus longtemps. Et c'est un des prophètes qui a fait le plus d'efforts. Combien de temps il a prêché? Alfa sanatin illa khamsina ama. Ça fait combien d'années ça? 950 années de da'wah. Le prophète a prêché combien de temps? 23 années. 13 ans à Mecca et 10 années à Medina. 23. Noé, Noé alayhi salam, 950 années de da'wah sans baisser les bras. Et il décrit, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. Voyez comment était leur réaction. Ce n'est pas le verset. On cherche un autre verset. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Je les ai invités ouvertement, en public, en privé, et ainsi de suite. Nuh alayhi salam a utilisé tout ce qu'on appelle les wasa'il et les asalib ou da'wah. Toutes les façons de les inviter vers l'islam, toujours avec hikmah, avec sagesse, mais ils n'ont pas accepté. Très peu de personnes avaient cru en Nuh alayhi salam. Pourtant, Nuh alayhi salam fait partie des ulul azmi min ar-rusul, parmi les grands prophètes, les 5 grands prophètes d'Allah qui sont Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Ibrahim, Nuh et Muhammad Mustafa alayhi afdalus salat wa atammu taslim. Alors qu'il y a peut-être d'autres prophètes qui ont eu plus de atba' que Nuh alayhi salam, mais Nuh est aimé par Allah azza wa jal par rapport aux qualités qu'il avait. Ensuite, ce sawadun azim, cette quantité de personnes que le prophète alayhi salatu wassalam a vu, en commentaire les muhadithin disent, imaginez ce que le prophète salam ressent à cet instant, et alors qu'il voit, il sait comment est-ce que ce dîn a commencé avec difficulté. Lorsqu'il a commencé, il y avait Abu Bakr, il y avait Khadija avant tout, il y avait Abu Bakr al-Siddiq, il y avait Ali ibn Abi Talib, il y avait quelques sahabes au fur et à mesure, ils se sont convertis, ils ont accepté l'islam, et ils étaient persécutés, ils étaient torturés, ils ne savaient plus où aller. Certains allaient en Abyssinie, ils revenaient, puis ils repartaient, ils cherchaient un endroit. Le prophète Sam était parti à Taïf, avec espoir que peut-être là-bas ils vont nous accueillir, et qu'il va amener le groupe de musulmans là-bas, à Taïf. Ils ont refusé, ils ont maltraité le prophète Sam, il est revenu, il est redescendu à Makkah al-Mukarrama, jusqu'à ce qu'Allah lui accorde, lui fasse voir en rêve, Taïba, la ville al-Madina, et là il y a eu, mashallah, l'essor. Et le verset qui marque la fin de sa mission et la réussite de sa mission, c'est إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Les gens sont entrés dans le dîn de l'islam أفواج, en quantité, alors qu'au début c'était دعوة سرية, l'invitation en secret, et les efforts et les persécution. On a vu dans surat al-Qalam, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le prophète, qu'il est fou, qu'il est possédé, que c'est quelqu'un qui veut être le conquérant, qui veut avoir la royauté de Mecca, peut-être qu'il cherche telle chose, et ainsi de suite. tant de choses, tant de calomnies, tant de mauvaises paroles, tant d'insultes, tant de souffrances que le prophète a connues. Et le jour de Qiyama, il voit une communauté à perte de vue, supérieure même à Moussa alayhi salam. Ça c'est sa tablir al-risala, la mission la plus difficile qui concerne l'humanité, et pas limitée aux Arabes ou à la péninsule arabe. La mission est la plus longue dans le temps, depuis qu'il est prophète jusqu'au Qiyama, mais Allah Rabbul Izzah lui a accordé A'wan, des personnes, des sahaba, qui ont écouté et qui ont fait établir al-risala à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et ainsi de suite. Et c'est, bi'idnillah, on expliquait encore ça aux élèves, les petits à la madrasa, c'est bi'idnillah, par la grâce d'Allah. Ensuite, c'est grâce aux efforts d'Abu Bakr al-Siddiq que nous sommes musulmans. C'est grâce aux efforts de Ali ibn Abi Talib que nous sommes musulmans. C'est grâce aux efforts de Uthman ibn Affan, de Hamza, de Mus'ab ibn Ubayd et ses sahaba, qui dans les époques difficiles, ils sont restés fermes. Ils ont constitué ce noyau indestructible autour du Prophète sallam. Lorsqu'une pluie de flèches était abattue sur le Prophète sallam lors de la bataille de Uhud, les sahaba ils se sont présentés comme un bouclier humain pour que le prophète ne soit pas touché. Lorsque le prophète fait la hijra avec Abu Bakr al-Siddiq, Abu Bakr se met devant, il se met derrière, à droite, à gauche. Il pense que l'ennemi envoie une flèche. Au moins c'est moi qui meurs et pas Nabiullah. C'est grâce, bi'idnillah, fadl min Allah, hidayah de la part d'Allah. Ensuite, grâce à ces premiers musulmans que nous on a pu avoir la guidée, ils ont propagé, et subhanallah, les sahaba le plus proche de nous, de l'océan Indien, ils sont allés jusqu'aux îles Comores. Subhanallah. Ça, c'est tablir al-risala, et c'est grâce à eux que nous sommes musulmans. Subhanallah. Et du côté de As-Sind, avant on appelait l'Inde, le Pakistan, le Cachemire, ça s'appelait As-Sind. Là-bas aussi, les sahaba sont partis, ils ont fait la da'wa, et ceux qui sont originaires de l'Inde, ben, notre guidé, bi'idnillah, c'est grâce à ces sahaba. S'ils n'étaient pas sortis faire la prêche, la da'wa illallah, on ne serait pas, subhanallah, seul, c'est dans quel état on serait. Qui serait en train de se prosterner devant des pierres ou faire quel genre d'adoration? Nas'alullah salamat wa al-afiyah wa nashkurullah ala ni'matil hidayah. Donc le prophète m'explique comment aussi nombreux sera sa communauté. Et là, la bonne nouvelle, c'est ces 70 000 personnes. Et dans certains hadiths, là, il y a une autre bonne nouvelle, qu'avec chaque individu, ça c'est dit, وَقَدْ وَرِدَ أَنَّ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّبِعِينَ الْأَلْفِ سَبِعِينَ أَلْفًا أَيْضًا, qu'avec chaque individu parmi 70 000, il y aura encore 70 000. Donc là, ça nous ouvre les portes de l'espoir. Ça fait, mashallah, un nombre extrêmement important. Même si ça nous paraît, si on compte, il y avait combien de sahaba lors du Hajjat al-Wada'a? Environ 100 ou 120. 100 000, il me semble. Hein? Environ 100 000. C'est que c'est même... Là, dans 70 000, il n'y a pas tous les sahabas, comme il dit encore le coup, ça nous tient à 40, nous. Quelle place il y a pour nous, hein? Mais on a espoir. On a espoir, on ne doit pas regarder la choix, la situation. On a espoir qu'on se concentre vers les objectifs, on est sincère, on fait les efforts, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accepter. Ensuite, les sahabas, ils sont mis à discuter. Alors, on va essayer de compléter le hadith. Certains, ils se sont dit que c'est ceux qui n'ont pas recours au ruqya. Alors, on ne va pas trop entrer dans les détails, parce que ça c'est un grand mas'ala. Ce qu'on doit retenir, c'est que quand quelqu'un a des difficultés, hein, ce genre de problème, il doit avoir immédiatement recours à la lecture. La lecture de tout ce que le prophète Ali Salat nous a enseigné, Ayatul Kursi, les Akhir al-Baqara, les Mu'awidat, et ainsi de suite. Ça c'est le remède du mu'min. Également, voilà, yaktawun, les personnes qui n'ont pas recours au traitement. Ça c'était une tradition chez les Arabes, se traiter par la cautérisation, c'est ça? Se traiter par le feu. Et là aussi, ce n'est pas interdit, mais de ne pas presser, de ne pas faire de traitement, c'est un peu technique, hein? On a un petit peu du mal vraiment à suivre les explications aussi, c'est que la personne ne précède pas la maladie par des soins. C'est pas qu'il va en avance chercher les soins avant d'avoir quelconque problème. Parce que se soigner par cette méthode, même si c'est pas la meilleure des méthodes, ça reste une méthode qui est possible. Le prophète alayhi salat wa salam avait soigné un sahaba qui avait un problème à l'œil, si je ne me trompe pas, avait son nom. Sahaba qui, lors d'une bataille, avait été blessé à l'œil, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eu recours à ce traitement, à cette façon de procéder. Et même à notre époque, c'est une science qui a été transmise, hein, chez les Arabes. On avait, une petite anecdote, on avait nous-mêmes des voisins, à l'époque on habitait dans la ville, prophète Ali Salat wa Salam à la Médina. Il y avait des voisins qui savaient soigner avec cette méthode. Et c'était impressionnant. Un petit enfant, un petit voisin, un petit garçon de 8 ans, il avait un début de gastro. C'est une anecdote, hein, on sent un peu du hadith. Donc quand quelqu'un a gastro, on fait quoi? Soit on est accro aux médicaments, on va donner des médicaments, ou alors des traitements, je ne sais pas, on va donner jus de pomme, ou je ne sais pas, des trucs qui un peu, remettent un peu de l'ordre dans le ventre. Ben, la voisine explique qu'eux, ils ont l'habitude, ils prennent une cuillère, ils chauffent, et quand ça devient une température supportable, ils appliquent sur le talon. Et ça coupe immédiatement la gastro. Et ça marche. Ça marche. C'est-à-dire que ça a été, ben, je ne vous dis pas d'essayer, hein, risquez d'atterrir un mal article, vous avez, d'accord, brûlé, torturé l'enfant. Il faut faire attention, hein. Il y a une façon de le faire. Moi, je vous dis en gros ce que j'ai compris, mais il y a peut-être d'autres subtilités que je ne comprends pas, d'accord? Et donc, c'est une science qui a été transmise, mais dans la mesure du possible, celui qui peut l'éviter, et il le fait selon l'enseignement prophétique, et il ne le fait pas avant le mal. Ça, c'est le sens global du hadith, nécessite un peu plus de détails, un peu plus d'explications. Mais nous, on va plutôt se focaliser sur deux choses. Un, le natija, bien sûr, le résultat. Mais avant cela, une des interdictions qui nous concerne un peu plus et qui touche les personnes qui sont, on va dire, soit un peu faibles d'esprit, mais ce n'est pas péjoratif, mais qui manquent de confiance en Allah. C'est at-tasha'um. At-tasha'um, c'est la superstition. Il y a beaucoup de gens, on discute même avec les élèves, on a eu une discussion récemment et on s'est rendu compte que la superstition, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans les habitudes qu'ils ne voient même plus cela comme un péché. D'accord? Exemple de superstition chez les Arabes, il y avait certains jours où il ne fallait pas entreprendre un voyage. Il y avait des mois qui portaient malheur. Jusqu'à maintenant, il y a un peu moins. Mais chez certains Arabes, lorsqu'on parle du mois de, je ne sais pas si c'était Safar ou Shawwal, un des deux, c'est des mois où il ne faut pas faire, faut pas prendre de grandes décisions parce que c'est un mois qui porte malheur ou les choses n'aboutissent pas. Tout ça, c'est la superstition. Après, il y a superstition en fonction des cultures. La culture occidentale, passer sous une échelle, ainsi de suite. Bref, c'est des choses un peu bêtes et tout. Mais il y a des fois où on crée des relations, des liens. Et c'est de la superstition avec des tocs également. Par exemple, si je porte tel vêtement, si un jour j'ai mis tel vêtement et j'ai réussi un contrat, un travail, j'ai l'impression que si je veux réussir une autre fois, il faut mettre le même linge. Ou alors il faut, et ça existe, et je vous assure, il y a plein de gens qui sont comme ça. Pourquoi est-ce que c'est pas bien? On va dire que oui, mais j'ai pas invoqué une autre divinité. Non, mais tu es en train de placer une part de ta confiance sur le matériel. Et tu n'as pas wa'ala rabbihim yatawakkalun. Parce que tawakkul ala Allah, c'est mettre tout de côté et garde une confiance uniquement en Allah Azza wa Jal. C'est pas parce que tu vas mettre les mêmes paires de chaussures que pour la premier rendez-vous avec premier rendez-vous, première embauche. Là, il y avait telle chose, là ça a réussi. La fois d'ensuite, j'avais mis un autre vêtement, donc j'avais raté. Ça, c'est des liens. Ça, c'est la faiblesse de foi, faiblesse un petit peu psychologique aussi. Shaitan qui tisse des liens, il essaie de faire tout pour t'éloigner des doigts. Pour que tu oublies de demander à Allah Azza wa Jal. Tout ça, ça fait partie de la superstition. Donc tout ça, il faut mettre de côté. On doit faire extrêmement attention parce que ça peut, à certains niveaux, ça peut être même comme un petit shirk. Parce qu'on place notre confiance en d'autres choses qu'Allah Azza wa Jal. Et le résultat, wa'ala rabbihim yatawakkalun, ils ont une confiance totale en Allah. Et ça, c'est l'objectif. Et ça se travaille. Quand on a vu à travers des a'mal, à travers une assiduité, à travers une relation avec Allah Azza wa Jal, à travers la connaissance religieuse, à travers la concentration de nos prières, qu'Allah nous accorde cette qualité. Et le sahaba, donc, il y en a qui avaient demandé, et le prophète a accepté. Il a dit, tu fais partie de ces gens. Et qu'est-ce qui fait que l'autre n'a pas bénéficié de ce doigt? Après, c'est des interprétations des muhaddithin. Un des avis qu'on retient, c'est que peut-être que le prophète sallam a su que cette personne n'avait pas les mêmes qualités qu'Ukash. C'est pour ça qu'il n'a pas dit qu'Allah te l'accorde. Allah t'accorde cette place, tu fais partie de ces personnes. Mais le prophète ne l'a pas dit non plus que non, ça ce n'est pas pour toi. Et là on voit toute la hikmah, la sagesse du prophète sallam qui jamais n'offensait une personne. Certains muhaddithin disent que peut-être que le prophète avait su que cet homme-là faisait partie des munafiqin, des hypocrites. Différentes interprétations possibles. Donc, là aussi, les savants disent, voyez, quand le prophète refuse ou n'accepte pas une demande, il ne vexe jamais la personne en face de lui. Il trouve toujours une façon d'harmoniser les paroles pour que la personne ne soit pas blessée, parce qu'il ne faut jamais offenser un frère en islam. Jamais blesser une personne, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit. Ne jouez avec les messages. Je vous parle par expérience personnelle. Vous avez des conversations, des échanges de WhatsApp. Il est mieux que vous avez un conflit, on sort du sujet. Quand vous avez une explication avec quelqu'un, oubliez votre portable, téléphonez. Oubliez l'écriture, téléphonez, parlez de vive voix. Parce que ce que vous écrivez, il y a 20 tafsirs possibles. Vous écrivez une phrase, en plus c'est un langage abrégé. Enfin, mis à part ça, le message écrit n'est pas comme la rencontre avec une personne. Vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un pour des erreurs, c'est pas par WhatsApp, vous demandez pardon. Vous allez voir la personne demander pardon. C'est trop facile ça. Avant le Ramadan, tout le monde dit voilà, faites-moi ma pardon. Vous envoyez ça à 175 personnes. Il n'y a aucune sincérité dedans. Moi, ces messages, je les efface tout de suite. Ce n'est pas pour toi, c'est pour tout le groupe. C'est pour je ne sais combien de centaines de personnes. Vous avez quelque chose à dire à une personne, allez le voir en face. Il y a un conflit à régler, allez voir la personne, parlez avec sagesse. Évitez tout ce qui peut perturber ou qui peut offenser une personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a intégré. Maintenant, si on va un peu plus loin, si on a intégré qu'on ne doit pas casser le cœur d'un musulman, que dire du cœur d'une maman? Que dire du cœur d'un papa? Que dire du cœur de ton frère de sang, de ta sœur, de tes proches, de tes voisins, des gens qui ont plus de droits sur toi? Ikhwan fillah, on doit faire très attention aux relations humaines. C'est essentiel. On ne progressera pas dans la foi si, du côté des parents, s'ils sont encore vivants, on n'a pas de bons, entre guillemets, de bons résultats. Si on n'a pas de bonnes relations avec les parents, on ne progressera jamais dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal. Pareil pour l'épouse, pareil pour les personnes qui sont sous notre responsabilité. Donc, c'était une petite parenthèse. Vous voyez, la noblesse et la sagesse, je crois, c'est la façon de répondre. Ce que nous devons retenir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui aura le plus de atba'. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera fier de nous, le jour de Qiyamah, alayhi afdalu salat wa tamu taslim. Il aura le al-maqam al-mahmoud, le rang le plus élevé. Il nous reconnaîtra par la lumière des ablutions et donc issue de nos prières. On doit développer ces qualités et on doit avoir comme priorité de nos doigts, Ya Allah, accorde-moi une place parmi ces 70 000 personnes qui vont entrer dans le Jannah, bi-ghayri hisabin wa la azab, qu'Allah nous accepte, wa ma tawfiq illa billah. Chers frères, on s'approche, j'allais dire dangereusement, j'allais dire plutôt, on s'approche heureusement, alhamdulillah, jour après jour, du mois de Ramadan. Hein? Rajab, c'est dans deux jours, à peu près deux ou trois jours, en fonction de la vision de la lune. On a besoin dès maintenant de préparer notre mois béni. On a besoin de planifier, d'organiser nos ibadas, de fixer nos objectifs. Chacun, il voit, selon son niveau, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière, qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi. On se fixe les objectifs et on demande en premier lieu à Allah Azza wa Jal de nous accepter, de nous donner la possibilité de vivre un Ramadan, de l'obéissance avec des progrès. Et puis, Inch'Allah, au fur et à mesure, le programme de lundi, on essaiera de discuter un petit peu sur les objectifs qu'on peut, Inch'Allah, se fixer pour ce mois béni qu'Allah nous accepte. Allahumma balighna Ramadan. Allah nous donne la possibilité de vivre jusqu'à ce mois et de le vivre avec ferveur, avec spiritualité et qu'Allah nous accepte. Subhan Rabbika. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.